Et j'espère que c'est la joie que vous avez dans votre cœur ce matin, bien que, par moments, il y a d'autres sentiments que nous pourrons avoir, que la joie soit toujours là, la joie de Dieu. Et c'est un peu dans cette optique que nous devons être alors que nous retrouvons notre étude dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, chapitre 4, et nous allons commencer avec le verset 7, mais ce sera surtout les versets 10 et 11 qui vont nous intéresser. La première épître de Pierre, chapitre 4 et le verset 7. Pierre va dire ceci: « La fin de toute chose est proche. » Et lorsque nous regardons le monde autour de nous, on se rend compte que la fin du monde ne doit pas être loin. Et la fin du monde est plus proche aujourd'hui que jamais. Et vérité très profonde, mais bon, voilà. La fin du monde, la fin de toute chose arrive. Et parce que la fin de toute chose arrive, Pierre, ici, encourage les chrétiens à avoir un certain comportement. Face à la fin de ce monde, même de cet univers tel que nous le connaissons, nous ne pouvons pas être indifférents en disant, de toutes les façons, la fin arrive, c'est Dieu qui s'en occupe, moi je vis ma vie tranquille et puis voilà. De toutes les façons, si je suis sauvé, je suis assuré du salut, je suis assuré de passer l'éternité avec Dieu, alors dans ce monde, arrive qu'arrive, peu importe, je vis comme je veux. Pierre dit, ah non, pas du tout, les enfants de Dieu doivent avoir un certain comportement, une certaine façon de vivre, parce qu'ils reconnaissent que la fin est proche. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour travailler pour le Seigneur. Il ne nous reste plus de temps, oui, à évangéliser, à avoir un impact dans ce monde, et notamment les uns envers les autres. Puisque dans les versets qui suivent, Pierre va surtout mettre l'accent sur les relations entre frères et sœurs. Bien sûr, notre témoignage en dehors de l'Église, en dehors de ce contact que nous pouvons avoir les uns avec les autres, est important. Et Pierre, il va parler de cela. Mais ce à quoi Pierre s'intéresse dans ces versets, c'est surtout, comment ça se passe entre nous, entre les enfants de Dieu. Et nous avons examiné donc du verset 7, les versets 7 jusqu'au verset 9, alors que nous avons parlé de la prière, nous avons parlé d'être sage, de réfléchir, nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de l'hospitalité, sans murmure, au verset 9. Et dans les versets 10 et 11, voici ce qui arrive. Puisque Pierre va aller un peu plus loin, permettez-moi de lire ces deux versets. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Pierre, dans ces deux versets, résume en partie comment nous devons nous comporter lorsque nous sommes ensemble, nos relations les uns avec les autres. Et Pierre va employer quelques mots qui, pour différentes raisons, sont traduits d'une certaine façon dans notre Bible. Et je vais vous montrer cela. Et avec ces traductions, on cache un peu le sens du mot. C'est pas volontairement, mais on passe à côté dans la traduction de ce que Pierre veut communiquer. Donc, on va voir cela, n'ayez pas peur, ce ne sera pas très très complexe, mais nous allons voir cela. Mais la première chose, au verset 10, que Pierre met en évidence, C'est quelque chose qui est valable pour tous. Tout comme, si vous vous souvenez, dans les versets 8 et 9, nous sommes appelés à manifester l'amour, l'hospitalité envers tous. Il n'y a pas d'exception. Pierre ne parle pas à un groupe spécifique que des chrétiens spirituels, que telle ou telle personne, que des responsables, que des personnes engagées. Non, il ne fait pas de distinction. Regardez verset 10, Pierre va souligner quelque chose de très important. Comme de bons dispensateurs, alors finalement c'est le mot économe qui est là, quelqu'un auquel une responsabilité est donnée, un gérant si vous voulez. C'est plus ou moins l'idée ici, quelqu'un qui gère. Alors comme un bon gérant, un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu. Alors les grâces de Dieu multifacettes. Alors le mot ici, il est rempli d'images, c'est cette idée de quelque chose de multicolore. Et en fait, on va retrouver ce mot en grec dans Jacques chapitre 1, quand Jacques va parler des diverses épreuves par lesquelles nous passons. Les épreuves de toutes les couleurs. Et il y en a, n'est-ce pas? Et ici, Pierre va employer ce même mot pour parler de la grâce de Dieu. Comme quoi la grâce de Dieu, tout comme les épreuves sont multicolores, viennent de toutes les manières, la grâce de Dieu est suffisante pour chacune de ces épreuves. La grâce de Dieu n'est pas défaillante, loin de là. Et Pierre dit, nous sommes appelés à être de bons gérants de ces différentes, de cette grâce de Dieu qui se manifeste de façon différente. Et regardez ce qu'il dit dans la suite du verset. Que chacun de vous. Alors, est-ce que ça s'applique à vous? Oui, oui, ça s'applique à moi. Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, voici la clé. Si on est enfant de Dieu, si on a accepté Christ comme son sauveur personnel, ceci s'applique à nous, à vous, à moi. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pierre explique dans ce verset, si vous êtes sauvés, vous avez reçu un don. C'est littéralement le mot ici, charisme. Hein? Un charisme, un don de la part de Dieu. Personne ici, si vous êtes sauvés, ne peut dire, je n'ai rien reçu de la part de Dieu. Je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de don. Les autres, ils en ont plein, mais moi, non, c'est faux. Pierre dit, vous avez reçu un don de la part de Dieu. Peut-être des capacités naturelles, des facilités dans tel ou tel domaine. On a vu hier, nos frères, ils ont des facilités avec le bricolage. Et qu'est-ce que j'en suis content? Parce que j'ai quelques petites compétences, mais eux, c'est formidable qu'ils soient là pour aider avec ça. D'autres, ça va être dans d'autres domaines. Dieu m'a donné une facilité avec la musique, gloire à Dieu. Et puis, à chacun, Dieu a donné quelque chose. Aujourd'hui, vous pouvez affirmer, j'ai reçu un don de la part de Dieu. Un charisme, une capacité. Et lorsqu'on y pense, c'est quelque chose de formidable. Parce que malheureusement, on regarde autour de nous et on voit facilement les capacités des autres. On voit ce que les autres font et on se dit, si seulement je pouvais... Si seulement j'avais ce que cette personne avait. Si seulement j'étais comme telle ou telle personne. Et Pierre rappelle ici, non, Dieu a donné spécifiquement à chacun ce qu'il a trouvé bon. Et est-ce que Dieu se trompe? Non. Alors ce que Dieu vous a donné en termes de capacité, en termes de don, de charisme, c'est exactement ce qu'il vous faut. Et nous pouvons nous épanouir dans cette pensée. Dieu me connaît parfaitement, c'est lui qui m'a créé. Et lorsque j'ai accepté Christ par la foi, Dieu m'a donné exactement ce qu'il me faut pour être un bon gérant dans son service. Alors, s'il y a quelques problèmes dans ma vie, ça ne vient pas de la part de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a peut-être quelques défaillances chez moi. Mais Pierre affirme ici tout enfant de Dieu, et d'ailleurs il rejoint Paul lorsque Paul parle des différents dons, des différents charismes. Pierre affirme ici, chaque enfant de Dieu a reçu au moins un, et pour la plupart, plusieurs dons, charismes de la part de Dieu. Ne laissez personne vous persuader du contraire. Ne laissez pas Satan vous tenter avec cette pensée, finalement je n'ai pas grand-chose à apporter, mon rôle est tellement minime. Non. Chaque enfant de Dieu est important dans l'œuvre de Dieu. Le monde voudrait minimiser l'œuvre des chrétiens. Nous pouvons regarder à d'autres églises qui sont peut-être plus grandes, qui ont plus de ressources, qui ont plus de capacités, qui peut-être même ont plus de zèle que la nôtre. Tout cela est tout à fait possible. Mais que ces choses puissent nous stimuler à aller de l'avant et non pas être découragés en disant « Ah, on n'a pas toutes ces capacités, on n'a pas tout l'argent, on n'a pas toute l'assistance que ces autres œuvres. » Alors, ce n'est plus la peine de vraiment faire grand-chose. Ah non, loin de là. Dieu nous a donné exactement ce qu'il faut, individuellement et puis en tant qu'Église. Alors, à nous d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Et puis, Pierre, il souligne dans ce verset 10, bien sûr, chacun a reçu un don, un charisme de la part de Dieu, et qu'est-ce qu'il faut en faire? Que chacun mette au service des autres. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Dieu nous donne des choses, non pas pour nous les gardions de façon égoïste en disant « Dieu m'a donné ceci et je ne partage pas », un peu comme un enfant qui tient absolument soit à son jouet ou son doudou et ne veut pas du tout partager. Non, ici, Dieu nous a donné ses charismes, ses capacités pour que nous les mettions au service de Dieu. Ce qui fait que si je ne le fais pas, je suis en porte-à-faux avec la Bible. Si je ne mets pas les capacités que Dieu m'a données au service de mes frères et sœurs, je suis en porte-à-faux avec la Bible. Je suis dans l'erreur. Et du coup, Pierre enseigne ceci à des chrétiens qui étaient dans la persécution. Parce que la réflexion pourrait nous venir, je suis limité dans mes capacités, je suis limité dans le temps, je suis limité pour X raisons, je n'ai pas grand-chose à apporter, alors qu'est-ce que moi je peux faire? Alors, je ne fais pas grand-chose, voire rien. Et lorsque nous nous souvenons que le contexte historique de ce passage, ce sont des chrétiens dans la persécution, et que Pierre appelle ces chrétiens à exercer ces capacités que Dieu leur a données, si eux, ils pouvaient le faire, aujourd'hui, 21e siècle, en France, à Vernon spécifiquement, moi je peux le faire également. Parce que de toutes les façons, c'est la grâce de Dieu. C'est la puissance divine. Et qu'est-ce qui est trop difficile pour Dieu? Rien. Dieu peut tout, n'est-ce pas? Nous l'affirmons. Enfin, j'espère que chacun ici affirme que Dieu peut tout. Qu'est-ce qui est trop difficile pour Dieu? Rien. Est-ce que Dieu peut agir dans votre vie? Oui. Et Pierre dit, parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu cette capacité de la parole de Dieu, nous sommes dans l'obligation. Mais aussi, nous avons la joie, le privilège de mettre ça au service des autres. Et peut-être mon service ne ressemblera pas à votre service, puisque nos capacités sont différentes. Moi, je ne pourrai pas faire tout ce que vous faites. Et vous ne pouvez pas faire tout ce que moi je fais. Mais chacun, là où Dieu l'a placé, peut faire quelque chose. Mettre cela au service des uns des autres. Paul, lui, il va prendre l'image du corps. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui soit superflu dans le corps? La médecine aujourd'hui essaie de nous dire que oui. Qu'il y a soit des organes ou des choses qui sont superflues dans le corps. Des choses dont on n'aurait pas vraiment besoin. Et pourtant, comme c'est Dieu qui a créé notre corps, il a placé chaque partie là exactement où il faut, avec un rôle bien spécifique. Et dans l'Église, c'est pareil. Dieu a mis en place l'Église comme un corps, des membres différents, avec des capacités différentes. Mais pour former un corps, pour aller dans une seule direction. Et lorsque nous réfléchissons, lorsque nous nous examinons, si nous sommes enfants de Dieu, est-ce que c'est le témoignage de ma vie? Est-ce que je mets mes capacités au service de mes frères et sœurs dans l'Église? Puisque c'est pour cela que Dieu nous a donné des capacités. Sinon, nous sommes égoïstes, sinon nous sommes en porte-à-faux avec la Bible si nous ne le faisons pas. Nous avons tous reçu quelque chose, nous sommes dans l'obligation de le mettre au service des autres, avec un cœur joyeux, avec un esprit bien disposé. Comme Paul va le dire, Dieu aime celui qui donne avec joie, non pas par contrainte, mais avec joie. Et puis, il va continuer dans le verset 11, puisque on pourrait perdre d'objectif, on pourrait penser que tout cela soit vraiment pour nos frères et sœurs. Bon, nos frères et sœurs bénéficient lorsque nous mettons nos capacités au service des uns des autres. Nos frères et sœurs bénéficient de cela. Mais est-ce que c'est vraiment nos frères et sœurs qui doivent être visés ou est-ce que c'est autre chose? Et Pierre montre dans le verset 11 que c'est finalement autre chose. Puisque verset 11, il va commencer en disant « si quelqu'un parle ». Ceci est très important parce que Pierre dit « il n'est pas toujours utile de parler ». « Si quelqu'un parle ». Et certains parlent, d'autres écoutent. Et parfois, c'est le moment de parler. Et là, il faut. Par d'autres moments, il faut se taire. Il faut réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Mais Pierre dit, si quelqu'un parle, eh ben, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et voilà, Pierre met la barre très haute. Les paroles qui sortent de notre bouche, pas simplement lorsque nous sommes au sein des quatre murs de ce bâtiment, pas simplement lorsque nous sommes en groupe entre nous en tant que frères et sœurs, mais à chaque moment, les paroles qui sortent de notre bouche doivent être des paroles venant de Dieu. Et là, on se dit, ah, on est pas bien. Parce que moi, tout comme vous, j'imagine, par moments, on dit des choses, on ne réfléchit pas trop. Et puis, on dit soit n'importe quoi. On dit des choses qui peuvent blesser. On dit des choses qui, peut-être, peuvent être contraires à la Bible. On dit des choses qui peuvent entacher notre témoignage. On dit des choses qui vont détruire une autre personne. On dit des choses qui vont freiner peut-être quelqu'un d'autre dans leur croissance pour Dieu. Et Pierre dit, si quelqu'un parle, c'est pas obligé qu'on parle, mais si on le fait, attention. Attention que ce soit comme Dieu finalement. Lorsque les personnes nous écoutent, ils doivent se rendre compte que c'est Dieu qui est derrière. Mais comment est-ce que nous savons comment Dieu parle? Est-ce que Dieu vous chuchote dans l'oreille? Moi, il ne me le fait pas. Hein? Dieu nous parle à travers sa parole. Et si nous connaissons peu la Bible, comment pouvons-nous prétendre pouvoir parler comme Dieu? Je vous soumets que nous ne pouvons pas. Pouvoir parler comme Dieu passe par une lecture quotidienne, une méditation à tous les instants de la parole de Dieu, la Bible. Si nous passons peu de temps dans la Bible, vous ne pouvez pas espérer pouvoir parler comme Dieu. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande de nous. Pierre dit, si vous allez ouvrir la bouche, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Un encouragement. Un verset qui va relever. Un verset qui va fortifier. Un verset qui peut-être va reprendre. Lorsqu'on identifie quelque chose dans la vie de quelqu'un qui n'est pas conforme à la Bible, à ce moment-là, de dire, voici ce que dit la Bible. mais bien sûr avec amour. Non pas pour rabaisser, non pas pour tabasser, mais pour fortifier plutôt, pour aider à grandir. Si quelqu'un parle, lorsque nous sommes sur le point d'ouvrir notre bouche, nous devons nous poser la question, est-ce utile? Souvent, la réponse à cela sera non. Est-ce biblique? À vous de voir. Nous devons nous poser ces questions. Quelqu'un a remarqué très justement que Dieu nous a donné deux oreilles, une seule bouche. Ça veut dire qu'il veut qu'on écoute deux fois plus qu'on ne parle. Jacques, il va dire que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, et puis lent à se mettre en colère. D'ailleurs, les deux vont très souvent ensemble, le parler et se mettre en colère. Pierre dit ici, ce qui sort de notre bouche doit être comme Dieu. Est-ce que vous pouvez honnêtement, devant Dieu, dire que la semaine passée, dans vos interactions avec vos frères et sœurs en Christ, vous avez parlé à chaque fois comme Dieu? Dimanche dernier, pensez. Quand vous avez discuté avec vos frères et sœurs, est-ce que vous pouvez dire, j'ai parlé comme Dieu? Mardi soir, pour ceux qui étaient là, est-ce que vous pouvez dire, toute parole qui est sortie de ma bouche était comme Dieu? À la maison, mari, femme, dans vos échanges, dans la semaine, est-ce que vous pouvez dire qu'à chaque fois que j'ai ouvert la bouche, c'était comme Dieu? Les parents envers les enfants, les jeunes envers les parents. Tous les jours, ceci doit être dans notre pensée. Ce n'est pas que le dimanche matin, lorsqu'on vient tous ensemble, on se prépare, on se fait tout beau, on met vraiment le meilleur pied en avant. Et c'est plutôt une façade. Non, ceci se passe tous les jours à la maison, au travail avec des collègues qui parfois sont désagréables, qui veulent parfois notre malheur. Notre bouche doit avoir les paroles venant de Dieu. Et nous sommes tellement influencés par le monde. Surtout ici en France, eh ben, on aime bien râler, n'est-ce pas? On aime bien se plaindre, rien ne va. Il y a toujours quelque chose où on peut s'en prendre à quelqu'un ou quelque chose. Et on dit parfois, bah, c'est toujours la faute des autres. Voilà, moi, j'y suis pour rien. C'est la faute d'eux. Et là, on va aligner toutes sortes de choses. L'enfant de Dieu doit dire, non, voici ce que Dieu dit. Je prends mes responsabilités, j'annonce la vérité, j'annonce ce qui est utile, j'annonce ce qui va édifier, j'annonce les promesses de Dieu, je ne me laisse pas entraîner par ce monde autour de moi. Et surtout lorsque je suis avec mes frères et sœurs, là je vais veiller à ce que je dis. Je vais me taire plutôt que de dire quelque chose qui est à côté. Parce que mes paroles doivent être comme annonçant les oracles de Dieu. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Parce que les paroles sont une partie de ce que nous faisons lorsque nous sommes ensemble. Lorsque nous sommes ensemble, nous discutons, n'est-ce pas? Et cela est bien. On a besoin de discuter, on a besoin de partager, on a besoin d'écouter, tout cela est très bien. Mais il ne faut pas rester aux paroles, et Pierre, lui, il a bien compris, puisqu'il va dire, si, donc encore une fois, si quelqu'un remplit un ministère. Alors là encore, comme j'ai dit, la traduction nous cache un peu le mot grec qui est derrière, puisqu'il faut savoir, le mot ministère, dans notre version ici, vient du mot en grec que vous allez peut-être reconnaître, c'est la forme verbal du mot diakonos. Ça vous dit quelque chose? C'est de ce mot que nous avons le mot diacre. Un ministre, quelqu'un qui accomplit un ministère. Ce qui fait que si quelqu'un remplit un ministère, on n'est pas simplement en train de parler des diacres ici. Non, c'est tout chrétien dans l'Église, tout enfant de Dieu. Et en français, on ne peut pas mettre dans la forme verbale, on ne peut pas ministrer, hein, ça ne se fait pas. Mais bon, remplir un ministère, être comme un diacre, puisque diacre veut dire ministre, quelqu'un qui se met au service. Et là, Pierre dit, si quelqu'un remplit un ministère, ce n'est pas tout le monde qui fera tout. L'un va agir là, l'autre va agir par-ci, un autre encore va agir par-là. Si on le fait, si quelqu'un remplit un ministère, si quelqu'un est dans, oui, dans cette position de ministrer, d'œuvrer, de servir, mettre au service des autres, bah, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Pouvoir tenir bon, c'est de cela que Pierre parle ici. Puisque cette idée de se lasser, toujours accomplir les mêmes choses à l'église, surtout dans une petite église comme la nôtre, on n'est pas beaucoup, donc souvent les mêmes charges reviennent aux mêmes personnes. Et comment surmonter la lassitude? Comment surmonter la routine, l'habitude? Comment continuer? Ben, Pierre dit qu'on remplisse, pas avec notre force, pas parce que nous sommes forts, nous sommes persévérants en nous-mêmes, non, mais parce que nous puisons notre force en Dieu. Et est-ce que la force de Dieu va arriver à son terme? Est-ce que Dieu se fatiguera jamais? Non. Est-ce que Dieu manquera de force? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile? Ou il va dire, ah non, là je ne peux pas. Non. Lorsque nous accomplissons un service dans l'Église, pour les frères et sœurs, nous devons avoir cette pensée, bah, c'est Dieu qui m'aide. C'est Dieu qui m'aide à le faire. Parce que sinon, nous pourrons tenir pendant un certain temps. Ça pourrait bien se passer jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, on baissera les bras. À un moment donné, on va en avoir marre. À un moment donné, on va dire, bah, on ne reconnaît pas mon travail. Et pourtant, toutes les semaines, je fais ceci, je fais cela, et personne ne le reconnaît. Alors, à ce moment-là, bon, je laisse tomber. On ne m'apprécie pas, alors voilà, que quelqu'un d'autre le fait. Ou j'aimerais tellement que d'autres s'impliquent, parce que moi, je suis un peu fatigué, j'en ai marre, je ne veux plus continuer. Et c'est à ce moment-là où on doit se souvenir, bah, la capacité d'aller de l'avant, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui nous permettra d'accomplir son ministère, son service dans l'Église, pour les frères et sœurs. Si quelqu'un remplit un ministère, si quelqu'un se met au service des uns des autres, ben, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Pierre nous montre ici que nous pouvons accomplir les choses dans l'Église sans la force de Dieu, par nos propres moyens. Nous pouvons mettre une bonne façade, avoir toutes les apparences à l'extérieur, mais sans la force de Dieu, ça n'ira pas bien loin. Sans la capacité divine, nous allons échouer. Nous allons baisser les bras. Nous en aurons marre. Nous allons mal agir. Et nous allons entacher notre témoignage pour Dieu. Le travail pour Dieu est tellement important, tellement grand, que nos forces sont absolument insuffisantes. Il faut la puissance de Dieu pour le faire. Alors, Pierre dit, entre frères et sœurs, on se parle. Entre frères et sœurs, on se donne un coup de main. On se met au service. Et tout ça doit être fait dans l'optique de Dieu. Bien sûr, nos frères et sœurs bénéficient, mais c'est surtout pour Dieu. Puisque les paroles viennent de Dieu, la force vient de Dieu. Et puis, la finalité, c'est Dieu. À la fin de verset 11, pourquoi parler comme annonçant les paroles, les oracles de Dieu? Pourquoi remplir son ministère avec la force que Dieu communique? Afin qu'en toute chose, ici Pierre rejoint Paul quand il va dire soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pierre va le formuler ainsi, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Si nous parlons n'importe comment, si nous ne parlons pas comme Dieu, si nous nous permettons de dire des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, si nous nous permettons de dire des choses qui vont détruire, qui vont freiner, si nous nous permettons d'accomplir notre ministère pour Dieu avec notre propre force, nous sommes en train de voler la gloire qui doit être donnée à Dieu. Nous sommes des voleurs. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne voudrais pas me considérer comme un voleur. Pareil, lorsque j'étais tout jeune, je volais. Il y avait une période où je volais au point où ma mère craignait de m'emmener chez des amis parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore voler? Bon, je vous assure, cette période n'a duré que très brièvement. Mais bon, c'est une réalité. Et bien sûr, ça fait honte, n'est-ce pas? Se faire traiter de voleur, qui aime ça? Mais personne. Et pourtant, la réalité, c'est que ce que Dieu cherche par-dessus tout, c'est d'être glorifié par notre vie. Et il nous donne tout ce qu'il nous faut pour le faire. Nous n'avons aucune excuse. Et lorsque nous ne donnons pas la gloire à Dieu qui lui est dû, nous sommes des voleurs. Et nous ne sommes pas dignes de ce nom d'enfant de Dieu que nous portons. Dieu est tellement grand. Nous avons tendance à le minimiser. Dieu est tellement grand. Il est tellement glorieux. Comment oserions-nous lui voler sa gloire? Comment oserions-nous essayer de nous justifier en disant « C'est vrai, je n'ai pas donné à Dieu la gloire qu'il lui doit. » Mais bon, enfin, les circonstances faisaient que... Non. Dieu n'acceptera pas cette explication-là. Ce que Dieu cherche par-dessous tout, c'est à la fin de verset 11, « En toute chose qui soit glorifiée. » Et comment exactement? Par Jésus-Christ. Mais comment est-ce que Jésus-Christ agit dans le monde aujourd'hui? C'est à travers ses enfants. Est-ce que Jésus-Christ est visible dans le monde aujourd'hui? Non. Mais il peut se voir à travers ce que ses enfants font. Et lorsque nous nous posons la question, déjà entre nous, on ne parle même pas de notre témoignage à l'extérieur. Cela est important, mais pour l'instant, laissons cela de côté. Déjà entre nous, là où ça doit être le plus facile, là où c'est le plus logique, est-ce que nous sommes en train de donner à Dieu la gloire qui lui est due? Est-ce que nous sommes des voleurs ou pas? Lorsque j'ouvre ma bouche le dimanche matin, et moi en premier, je me rends compte que ceci s'applique à moi. Est-ce que c'est comme annonçant les oracles de Dieu? Demain matin, lorsque le réveil sonnera, quelles seront les paroles qui vont sortir de votre bouche? Réveil maudit! Non! Les paroles qui doivent sortir de notre bouche doivent être « Merci Seigneur que tu me donnes la vie. Merci Seigneur que je peux me lever. Il y a des gens qui sont cloués au lit. » Et lorsque viendra le mardi soir, je prends quelques minutes pour vous encourager de nouveau d'être là le mardi soir pour l'étude biblique, la réunion de prière. On partage, on prie ensemble. Le mardi soir, 19h30, lorsque vous pensez à la réunion de prière, quelle est votre pensée? Est-ce que c'est « Ah oui, je fais tout pour pouvoir y assister ». Coûte que coûte, oui, la semaine est dure. Oui, il y a toutes ces différentes choses, mais là, sauf si un accident m'arrive, là, je vais être avec mes frères et sœurs. Les différentes activités de l'Église. Cet après-midi, on a l'effort d'évangélisation. C'est ouvert à tout chrétien. Chaque enfant de Dieu, ce n'est pas juste un élite quelque part. Non, c'est chaque enfant de Dieu. Les différentes réunions. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous saisissons ces occasions pour faire du bien les uns les autres? D'être présents pour nous encourager? Est-ce que nous avons l'oreille attentive pour écouter peut-être les problèmes par lesquels nos frères et sœurs passent, pour les encourager, pour peut-être apporter des réponses, un verset? Dans notre service que nous accomplissons les uns pour les autres, est-ce que nous le faisons tout simplement en attendant qu'un jour, lorsque nous serons dans le besoin, nos frères et sœurs vont nous aider? Ou est-ce que nous le faisons parce que nous reconnaissons c'est Dieu qui nous remplit de sa force et c'est pour sa gloire que nous le faisons? La fin de toute chose est proche. La fin du monde arrivera. Ça peut être aujourd'hui. Ce ne sera pas par une tsunami, non. Non, ce sera lorsque Dieu décidera. Et ça peut être aujourd'hui. Et lorsque cette fin arrivera, nous ne pourrons plus travailler pour Dieu comme nous le faisons aujourd'hui. Nous ne pourrons plus faire du bien à nos frères et sœurs comme nous le faisons aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui que nous devons agir. C'est aujourd'hui que Dieu nous remplit de sa force. C'est aujourd'hui que Dieu répond aux prières. C'est aujourd'hui que Dieu veut que nous lui donnions la gloire qui lui est due. Un jour, ce sera trop tard. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, par la puissance de Dieu, de le faire. C'est ouvert à tout enfant de Dieu. Personne n'est exempt. Personne ne peut dire « je suis un cas particulier ». Non, c'est ouvert à tout enfant de Dieu. Alors, en sortant de la réunion ce matin, cet après-midi, quelle sera votre réflexion? Demain matin, jusqu'à la fin de la semaine, qu'est-ce que vous aurez en priorité? Est-ce que vous aurez la gloire de Dieu en tout? Ou est-ce que vous aurez autre chose? Aussi valable, aussi justifié que soit cette chose, rien ne doit venir prendre la place de cette recherche de la gloire de Dieu. C'est pour vous, pour moi. Voici ce que Dieu veut faire. Voici ce que Dieu peut faire dans votre vie. Et à la fin de ce verset 11, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles? Ça ne s'arrêtera pas. Dieu ne se fatigue pas. Nous, nous sommes fatigués, n'est-ce pas? Mais Dieu ne se fatigue pas. Il nous apportera toujours exactement ce qu'il faut. Et comme Pierre termine ce verset 10 avec « Amen », c'est comme une prière. Dieu attend cette prière de notre part. « Dieu, aide-moi. Je suis insuffisant. Aide-moi. Je reconnais ma faiblesse. » Et je demande ton aide. Alors c'est dans cet esprit que nous voulons terminer. Prenons quelques instants dans le silence pour demander l'aide de Dieu pour cette semaine devant nous. Et puis je prierai pour terminer. Oui, notre grand Dieu, nous sommes devant toi, tu vois toutes choses, rien n'est caché à tes yeux. Tu vois jusqu'au fond de notre être. C'est toi qui nous as créés. Tu nous dévoiles dans ta parole ce que tu attends de nous. Nous reconnaissons notre faiblesse. Nous avons parfois la volonté, mais les forces nous manquent. Nous demandons à ce que tu nous remplisses de ta force, que tu changes en nous ce qui a besoin d'être changé, que tu enlèves tout ce qui ne te plaît pas, que tu nous gardes de mal agir, de mal parler, que tu nous gardes de voler la gloire qui t'est due, que tu puisses nous fortifier pour cette journée qui reste devant nous, pour demain, pour toute cette semaine. Tu vois déjà tout ce qui nous arrivera et tu as préparé ta grâce. Tu nous remplis. Tu es le Tout-Puissant. C'est vers toi que nous tournons avec confiance et aussi avec reconnaissance parce que nous savons que tu répondras. Parce que tu es le Dieu rempli d'amour, ce Dieu personnel. Que tu puisses recevoir l'honneur, toute la gloire qui t'est due. Parce que nous agissons avec ta force pour toi. C'est en ton nom que nous prions. Amen.